Ça va rejoindre au bout du fil Ariane Hébert pour parler du livre Stress et anxiété. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien vous-même?
Ça va bien aussi. D'abord, je sais que c'est un sujet que vous avez abordé au fil des années. Comment est arrivée l'idée de ce livre-là, précisément?
Bien, en fait, ça fait plusieurs années justement que je jongle avec cette idée-là. J'en avais écrit un pour les enfants. Ça m'était demandé autant par ma clientèle que, en fait, je le constatais bien dans ma vie qu'il y a des besoins par rapport à ça. Mais quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est un projet que je devrais mettre de l'avant là, et arrêter de repousser. Donc, ça a été le coup de grâce ultime pour me motiver à rédiger, là.
Mais est-ce qu'on l'aborde différemment? Parce que là, on l'aborde en contexte de pandémie, donc il y a une anxiété et un stress face à l'inconnu qui est décuplé, évidemment.
Oui, effectivement, mais en fait, ce sont quand même les mêmes stratégies, les mêmes ressources qu'on va utiliser. C'est juste que cette arrivée de pandémie-là m'a montré, en fait, jusqu'à quel point les gens étaient peu outillés. Et puis là, ben, on a de moins en moins accès aux ressources professionnelles et tout parce que beaucoup de gens le requièrent. Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est effectivement un bon moment là, pour faire un petit guide qui va être, en fait, ce que j'appelle un start-up, excusez-moi pour l'expression anglophone, mais c'est comme un point de départ pour dire, bon, ben, je vais essayer de moi-même mieux gérer les enjeux que je rencontre au niveau du stress et de l'anxiété, mais ça remplace quand même pas un soutien professionnel si besoin est, là.
Le livre est assez épuré, il y a beaucoup de trucs, mais c'est assez espacé, c'est pas d'une grosse brique non plus. Est-ce qu'il fallait que ce soit comme ça? Parce qu'évidemment, si on fait face à du stress, on n'a pas envie de s'attaquer à une brique de 400 pages non plus.
Ben c'est ça, l'idée toujours dans les guides que je produis, là, c'est toujours de rendre ça accessible et facile à lire pour quelqu'un
Il est pas.
qui est pas prêt à s'investir dans un cours de 60 heures par semaine. Donc, l'idée, c'est de rendre ça justement, là, tu sais, genre de livre qu'on laisse traîner puis qu'on lit un passage une fois de temps en temps, avant d'aller se coucher dans la salle de bain, peu importe, là. Donc, un petit guide qui se traverse facilement, qui invite à la réflexion, mais qu'on peut prendre aussi juste de façon légère pour voir où on en est où là, dans nos capacités de gestion de stress et d'anxiété.
Il y a une grande nouveauté pour beaucoup de gens cette année, c'est le télétravail. Est-ce que ça
Oui.
peut causer de l'anxiété, le télétravail?
Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des stresseurs qui sont éliminés par le télétravail. On pense notamment
Le
au
trafic.
trafic, oui, c'est ça, aux heures perdues à droite et à gauche, même sur l'espace de travail. Sauf que cette coupure-là rend les choses aussi beaucoup plus concrètes. La distinction travail-maison, à ce moment-là, est beaucoup plus difficile à faire en télétravail. Alors, il y a beaucoup de gens qui me rapportent, par exemple, de se sentir constamment à la tâche parce que ils ont du mal là, à fermer l'écran et à dire, bon, ben c'est fini pour aujourd'hui, hein, c'est facile, c'est accessible, c'est là, ça traîne sur la table de cuisine. Et puis, donc, voilà, il y a des enjeux qui sont inévitablement liés au télétravail, puis la présence des autres, la présence des enfants, la présence du conjoint qu'on aime bien, mais que voir 7 jours sur 7, 24 sur 24, ça commence à être un peu stressant. Hein? Donc, oui, effectivement, le télétravail a des avantages, mais peut augmenter aussi le stress et l'anxiété.
Au fil des années, il y a eu la multiplication des écrans. Depuis 10-15 ans, je dirais que ça amplifie sans arrêt, autant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. J'imagine que ça aussi, ça peut être une cause de stress.
Les échanges d'informations, ça aussi, vous voyez, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que maintenant, on a accès à une panoplie d'informations grâce aux écrans qui peuvent avoir un caractère rassurant, mais qui peuvent avoir un caractère extrêmement anxiogène aussi. Donc, voyez, par exemple, reportez-vous le 20 ans. La pandémie, là, ben, on l'aurait lu dans les journaux jour après jour. On aurait peut-être écouté LCN une fois de temps en temps, mais là, on est bombardé d'informations qui ne proviennent pas tous de sources fiables. Alors, effectivement, là, c'est un terreau fertile là, pour se mettre à être anxieux et stressé, d'autant plus si on a de l'intérêt pour ça, puis qu'on est à la recherche de ce type d'informations, ben là, on est amplement servi, là. Fait que oui, c'est aussi à double tranchant, donc ça peut être générateur d'anxiété.
Est-ce que c'est important de le détecter rapidement quand le stress ou l'anxiété arrive? Comme ça nous permet de mieux le gérer, j'imagine.
Mais en fait, un certain niveau de stress et d'anxiété, là, c'est toujours bénéfique. Ça nous permet de se mobiliser, ça nous motive, ça nous garde en état d'éveil. Là où c'est important, c'est de faire attention justement à son santé quand ça devient, au contraire, là, paralysant. Fait que oui, c'est important de le détecter rapidement parce que malheureusement, c'est rare que ça passe toute seule. Faut faire des stratégies, faut mettre en place des interventions. Et donc, plus on s'y prend tôt, moins on laisse la situation s'envenimer, plus on a de chance là, de mieux gérer. Ça peut, je fais souvent la comparaison, là, c'est un peu comme apprendre à nager. Une fois qu'on a des techniques de base, ben on se laisse moins couler comme une roche au fond. Là, hein? On se débat un peu, puis on parvient plus facilement à remonter à la surface. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Plus tôt on apprend, plus solide on devient face au stress et à l'anxiété.
Et d'ailleurs, vous faites un parallèle avec le bain, en quelque part, non?
Oui, je fais pas trop parallèle avec le bain, j'aime bien faire des images, mais en fait, c'est sûr que mon préféré, là, c'est le bateau. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un capitaine qui allait en mer, vous avez deux façons de vous assurer de ne pas naufrager. C'est faire en sorte que l'eau entre pas dans votre bateau. Et si l'eau entre, ben, il faut la sortir de votre barque. Fait que donc, c'est un peu la même chose pour le stress et l'anxiété. T'sais. On s'assure de mettre des conditions gagnantes pour ne pas en laisser rentrer, pour ne pas en vivre trop. Mais si on en vit, et c'est inévitable, à ce moment-là, ben là, il faut trouver des stratégies pour faire sortir, pour évacuer cette anxiété-là. Là. Donc, on a deux angles d'attaque, si vous voulez, là, des mesures préventives et des stratégies remédiatives si on est bel et bien atteint par le stress et l'anxiété.
Évidemment, avec, je parlais des écrans tout à l'heure, il y a l'écoute qui est moins là aussi. On est constamment derrière ça. Donc, c'est moins facile de trouver de l'aide, j'imagine, autour de nous parce que l'écoute disparaît tranquillement.
Ben, pour vivre avec des grands ados, j'ai envie de dire.
Oui. Oui,
vous avez oui. Sur quelque chose. Hein, des réponses en mode aussi là, puis des Ben oui. C'est vrai qu'on est encore capable d'aller attirer l'attention de nos proches quand c'est nécessaire. Mais en fait, c'est encore là, je vais avoir l'air peut-être chambranlante toujours dans mes positions, mais il y a une certaine forme d'aide qui peut venir à travers les écrans. Donc, ouais. On peut avoir accès à des sites Internet ou des ressources auxquelles on n'a pas accès autrement. Là. Donc, des plateformes, tout ça. Cependant, effectivement, là, on est un peu plus isolé à cause de cette technologie-là. Il faut faire attention. Il y a aussi les... Tu sais, je pense, par exemple, aux jeunes, là, les amis derrière les écrans, ça remplace pas le vrai contact social. Là. Donc, tu sais, il y a des jeunes, par exemple, qui vont dire à leurs parents, « Oui, ben c'est vrai que je suis encore en train de jouer à mes jeux, mais je joue en gang. Ouais. » Dans le fond, je suis avec mes amis. Puis, les parents, ils disent, « Bah, ben au fond, tu sais, ils socialisent. » Non.
Vous êtes psychologue dans la vie.
Oui.
On a beaucoup parlé de santé mentale au cours de la dernière année. Est-ce qu'on en a parlé assez, selon vous, ou pas assez?
Ben, quant à moi, on n'en parlera jamais assez. En fait, je pense que c'est encore premièrement trop tabou, qu'on a encore trop peu de ressources et que les ressources dont on dispose sont trop peu accessibles. Et je dois vous dire, sans vouloir être alarmiste ou en fait, je suis ni prophète de malheur, ce que je vois, moi, en bureau privé, là, cette année, c'est fou, l'augmentation des demandes, mais la lourdeur aussi de la détresse des gens qui accèdent au bureau, qui viennent, en fait, à ma rencontre. Là. Fait que donc, j'ai malheureusement l'image que les prochains mois vont être difficiles de ce côté-là, côté santé mentale. Là. Fait que je pense que c'est un bon moment, là, plus que jamais, pour se relaver les manches, puis collectivement, essayer de faire changer ça.
Est-ce qu'on attend trop tard pour demander de l'aide, bien souvent?
Encore là, ça, ce n'est pas une donnée sexiste,
non.
C'est une donnée réelle, là. Les hommes que les femmes. Ouais, c'est encore beaucoup moins bien vu, disons-le comme ça, pour un homme de parler de sa fragilité et d'aller chercher de l'aide versus une femme. Là. Puis même socialement, là, sans même aboutir dans un bureau professionnel, là, pour un homme, pour un gars, dire que ça va pas, c'est encore beaucoup plus difficile que pour une femme. Fait que ça, c'est un tabou qui doit être modifié parce que ça sert pas à personne, on s'entend. Mais donc, oui, je pense que dans plusieurs cas, on attend trop.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés sur la santé mentale parce que ça paraît pas physiquement? On dit souvent, repose-toi, puis tu vas pouvoir travailler, il n'y a pas de problème.
Ben oui, tout à fait. Puis même dans des milieux où on s'attendrait à ce que ce soit... on s'attendrait à ce que le niveau de compréhension soit beaucoup plus grand. Tu sais, par exemple, je pense à des institutions comme des écoles, des hôpitaux, etc. Tu sais, il y a encore beaucoup de ce tabou-là de dire une blessure physique, ça se voit, effort psychologique ou en tout cas une fragilité psychologique, c'est difficile à apprécier à l'œil nu. Donc, il y a beaucoup de scepticisme par rapport à ça, tu sais. Et puis, ils viennent facilement les critères, moi je cherche mes mots, là, c'est un paresseux ou c'est un âge, ou ben voyons, là, OK, ça coûte des plus, ça, ça fera. Fait que, oui, ça, encore beaucoup. C'est le travail, on avance, là, je veux dire. Si on regarde encore là, si on recule de 10 ans, on a fait des progrès, c'est indéniable. Mais est-ce qu'on a encore de la place pour progresser? Assurément.
Vous l'avez dit, vous avez écrit pour les plus jeunes un livre sur le même sujet. Est-ce que quand on reçoit des témoignages de gens qu'on a aidés, soit dans les bureaux comme psychologue ou avec les livres, est-ce que c'est touchant?
Ben, pensez-vous, écoutez, j'ai des fois, là, justement, ces témoignages-là, là, à chaque fois que j'en ai un, ça justifie toutes les heures et le dur travail investi, puis ça me donne le goût de continuer encore et encore parce que je trouve que c'est la plus belle récompense, hein, au-delà, par exemple, de la renommée que peuvent donner les livres ou de l'argent qui rentre en conséquence, hein, ça n'a rien à voir avec le feedback que j'ai de gens qui ont trouvé une aide à travers ça. C'est vraiment gratifiant.
Les secrets de la base, c'est l'organisation puis l'équilibre de vie, en quelque part, pour essayer de contrôler ça.
Pour essayer de contrôler le stress.
Ben, le stress, ouais, pour essayer de diminuer, en tout cas.
Ben, en fait, vous le dites, tout est question d'équilibre, et puis il y a beaucoup, beaucoup à voir aussi avec les perceptions. Donc, le stress, l'anxiété, tu sais, qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle situation, je vais être complètement zen et vous allez être vraiment nerveux ou anxieux? Ben, c'est votre compréhension, votre vision de la situation, ce que vous en dégagez. Donc, la perception des individus joue un rôle primordial. Tu sais, face à une araignée que moi je peux trouver mignonne, l'autre est paniqué. Uh-huh. Pourtant, on est face au même animal, là. C'est juste que notre perception de la réalité à ce moment-là devient très différente. Il y a beaucoup de travail à faire au plan cognitif, au plan justement de l'interprétation de ce qui est en train de se passer, des stimuli, des menaces. Oui, il y a de l'équilibre de vie, mais il y a un grand travail au niveau des pensées et des réflexions qui vient supporter le travail à l'anxiété.
Le livre peut devenir un outil de référence pour les gens, à ce sens où à chaque fois qu'on sent qu'on va déraper ou que ça recommence, on peut aller lire les bouts pour se guider.
Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de trucs, de techniques, ouais, de stratégies qui sont la base. Par exemple, là, si vous venez me voir là, en thérapie pour de l'anxiété, là, ben, on va commencer par ça. Donc, les premières séances, je vous dirais les 10 premières rencontres assurément ou quelque chose qui tourne autour de ça, on va traverser ça. Fait que, si vous prenez le livre et que vous amorcez ce travail-là chez vous, peut-être que ça va être amplement suffisant. Peut-être que certaines personnes vont néanmoins avoir besoin, puis comme je vous disais, ça ne remplace pas l'aide d'un professionnel. Là. Mais je trouve que c'est vraiment un bon outil de départ.
Est-ce qu'on peut complètement éliminer l'anxiété? Ben, pas tout à fait, parce que ça en prend un peu, mais est-ce qu'on peut tout à fait l'éliminer?
On ne veut pas l'éliminer complètement. L'anxiété, là, je le répète, là, à un certain niveau, ça nous permet de nous mobiliser,
oh oui,
ça nous met en action. Fait qu'on ne veut pas l'éliminer complètement. Puis même si ça crée un malaise et un inconfort, là, ultimement, c'est une bonne chose d'en avoir à certains égards. La minute où on se dit « OK, là, c'est trop », c'est vraiment quand on tombe dans l'effet inverse, c'est-à-dire que plutôt qu'être mobilisé puis capable d'avancer, on devient paralysé. Ou encore qu'on vit une souffrance qui est vraiment trop importante, où ça amène bon, des conséquences physiques aussi trop importantes, une grande fatigue, une perte d'énergie, etc. Mais autrement, là, on ne cherche pas à l'éliminer. Mais est-ce qu'on peut la ramener à un point d'équilibre où c'est juste bénéfique et très peu nuisible? Ben, ça aussi. Oui, on peut faire ce travail-là. Et puis, le pire, là, c'est que c'est un des troubles qui se traite le mieux, avec lequel on a le plus haut taux de succès, là, par exemple, en thérapie cognitive ou comportementale. Donc, c'est à la portée de tous de venir au bout de son anxiété ou à peu près, je dirais, une très, très grande proportion de gens. Fait que donc, on a intérêt là, à travailler, à mettre les épaules à la roue pour en venir à bout. Et puis, une fois qu'on a bien appris les trucs et stratégies et qu'on maîtrise bien ces approches-là, celles qui fonctionnent pour nous, là, c'est beaucoup moins difficile de fois en fois à revenir là, à ce point d'équilibre-là. Fait que donc, c'est un apprentissage qui est utile, qui va servir tout au long de la vie et dont on ne devrait certainement pas se passer.
Et j'imagine que plus on attend avant de consulter, plus c'est difficile.
Ben, et ça, c'est vrai pour tout, hein. Au fur et à mesure que vous avancez dans des patterns qui sont inadéquats, ces patterns-là se renforcent, se concrétisent, se cristallisent, fait que ça devient de plus en plus difficile à défaire, effectivement. Fait que c'est dans l'intérêt de tout le monde, je le répète, là, de s'y attaquer le plus tôt possible avec des bonnes stratégies. Et puis après, une fois qu'on est sur notre aire d'aller, là, tout devient plus facile.
Est-ce qu'il y a un autre projet de livre en tête ou pas encore?
Il y en a trois. Pourquoi on parle de ça? En fait, il y en a un qui est terminé. Moi, j'attends maintenant, c'est l'illustrateur qui l'entre les mains. Celui qui va s'adresser aux enfants, ça s'appelle La colère racontée aux enfants. Fait que donc, c'est un petit bijou, je l'adore. Là, c'est pour montrer aux enfants, leur enseigner que derrière leur colère se cache toujours une autre émotion et que c'est celle-là qu'il faut aller chercher et identifier pour venir à bout. Donc, la colère, finalement, ce n'est qu'une réaction à quelque chose. Donc, fait qu'il y a celui-là. Donc, pour moi, ma partie est faite. Donc, il est dans les mains d'un illustrateur. Il y a le TDAH version adulte. J'ai déjà fait aussi TDAH enfant maintenant pour les adultes parce que c'est un trouble qui est de plus en plus diagnostiqué chez les adultes. Alors, c'est super intéressant. Les trucs sont différents de ce qu'on offre aux enfants. Fait hyper stimulant à écrire. Et celui qui commence à peine, là, il y a juste la table des matières ou le schéma de base de fait, c'est l'opposition chez les enfants. Donc, ça aussi, ça va être super trippant, si je peux me dire. Je sens que mon année va être bien remplie, bien chargée et super motivante.
Est-ce qu'on pige dans son expérience de maman quand on touche au sujet des enfants? J'imagine que oui, en quelque part.
Ben oui, c'est sûr. Puis, il y a des choses qui s'apprêtent, en fait, qui s'appliquent moins à ce que j'ai vécu, mais n'empêche, il y a toujours des liens que je vais faire avec mes propres filles. Et puis, des petits monstres, j'en vois un puis un autre. Des petits monstres attachants, bien entendu, là, on ne peut pas le prendre au sens du
jeu.
Donc, oui, c'est ça. Je vais aussi chercher dans mes expériences cliniques et ça donne ce que ça donne, des petits guides super utiles et bien appréciés.
Bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Ah, c'est un plaisir.
Merci.
Merci.